Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Il y avait des combats par ici. Ils lançaient des choses comme ça dans les champs. Je l'ai pris avec un bâton, il était tombé là, sur le ventre. C'est pour ça qu'il n'a pas explosé.
Saviez-vous que la Colombie est le pays le plus miné au monde après l'Afghanistan? Un souvenir de l'époque de la guerre avec les FARC. Les mines sont encore là, les FARC ne sont plus en guerre. Mais pour combien de temps? La Colombie vote dimanche. Et c'est l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Avec Florence Paracolo sous les radars, nous allons notamment voir si Donald Trump a vraiment le droit de bloquer des tweets insultants. Eh bien, apparemment non, figurez-vous. 18h50, la carte blanche des correspondants de France Inter avec des crucifix en Bavière et des hipsters à Pittsburgh. 18h50, l'édito d'Anthony Bélanger. Décidément, les relations sont tendues entre les États-Unis et l'Asie. On parle de Chine et évidemment de Corée du Nord. Mais tout de suite, c'est en Irlande que nous allons à la veille d'un vote crucial. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Et c'est vrai que c'est un vote qui fera l'histoire, hein, celui des Irlandais et des Irlandaises. Demain, un vote pour abroger le 8e amendement de la Constitution qui interdit tout avortement, même en cas de viol, même en cas d'inceste, même en cas de malformation du fœtus. On y viendra. Un vote pour l'histoire parce que le sujet dans ce pays reste un véritable tabou. On va parler aussi de ce que ça peut dire politiquement pour le Premier ministre irlandais. Bonsoir Nathalie Seban.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à Paris 3. Vous êtes membre de la Société française d'études irlandaises. Votre spécialité, ce sont les rapports entre l'Église, l'État et les droits de la femme. Donc je pense qu'on aura bien cerné le sujet grâce à vous. Et puis dans un instant, au téléphone, nous serons avec Alba Smith, qui est co-directeur de la campagne nationale Together for Yes et qui est l'une des figures de proue de cette campagne, en tout cas pour l'abrogation donc de cet article, de ce 8e amendement. Nathalie Seban, d'abord pour commencer, il faut nous remettre un peu de contexte. En 1983, donc ça commence à faire un certain temps, la très catholique République d'Irlande a sanctuarisé l'interdiction d'avortement en le mettant dans la Constitution, ce qui était quand même quelque chose d'assez fou, y compris à l'époque. Comment l'Église est parvenue à l'époque à étouffer ce débat à ce point-là et à le mettre jusque dans la Constitution pour qu'on n'en parle plus du coup avant aujourd'hui?
On en a reparlé, mais de manière très ponctuelle. Mm-hmm. Mais en fait, il faut savoir que la criminalisation de l'avortement remonte à une loi britannique de 1861 qui rendait passible d'une peine de prison à vie, puis ensuite 14 ans de prison, toute personne qui subissait une IVG ou qui aidait une femme à subir une IVG. Et lorsque l'Irlande a accédé à son indépendance en 1922, elle a incorporé ce dispositif dans son arsenal législatif. Et même quand la Grande-Bretagne a renoncé en 67 en légalisant l'avortement, l'Irlande a continué à interdire l'IVG. Et au début des années 70, les Irlandais craignant l'influence des articles comme Roe versus Wade aux États-Unis, l'influence du législateur européen, ont monté une campagne féroce anti-choix, donc initiée, soutenue et portée par l'Église catholique, pour que la pénalisation soit renforcée. Et c'est comme ça qu'en 83, ce fameux 8e amendement, ou article 43.3, a été incorporé à la Constitution, qui garantit une protection constitutionnelle équivalente à la vie de la mère et à la vie de l'enfant.
Et les fameux 14 ans de prison dont vous parliez d'ailleurs sont toujours valables aujourd'hui. Si une femme avorte, c'est donc illégal, y compris si elle a été violée. Et les 14 ans de prison, c'est donc elle qui les risque. C'était l'Église évidemment qui tirait ces ficelles-là. Maintenant, on sait bien que l'Église a un poids qui est beaucoup moins important que celui qu'il a pu être autrefois. Est-ce qu'elle tire encore ce genre de ficelles quand même ou pas?
Alors, si vous voulez, l'influence de l'Église...
On a l'impression que c'est un peu caricatural, pardonnez-moi, de dire « Ah bah c'est l'Église, en fait. » C'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
Oui, ça a toujours été beaucoup plus compliqué que ça. L'influence de l'Église catholique a quand même considérablement diminué ces 20 dernières années, notamment à cause des scandales dans lesquels elle a été impliquée. Mm-hmm. La jeune génération a à cœur de vivre dans une société libérée de ce joug. Mais vous avez encore une grande partie de la population qui reste fidèle à des principes qui ont posé les bases de l'Irlande indépendante des années 20. Et il faut comprendre que c'est l'Église qui, pendant des années, a décidé et imposé ce qui était moral, la manière dont les femmes devaient se comporter, dont les familles devaient se comporter, et qu'on ne va pas changer les mentalités et une culture en quelques décennies. Moi, je pense qu'on est vraiment face à une Irlande qui hésite entre deux identités. En ce moment, vous avez cette Irlande moderne de Facebook, de Google, etc. Et puis vous avez du mariage pour tous de 2015.
Et alors j'allais y venir, 62%. C'est passé comme une lettre à la poste, le mariage pour tous en Irlande. Là, effectivement, on en allait avec l'avortement. Mais quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a comme une marque de fabrique. En fait, on sépare intégralement ces deux choses-là. L'avortement à l'intérieur de la société irlandaise, y compris peut-être chez certains jeunes, on va y venir, reste quelque chose d'extrêmement important.
Et d'ailleurs, les pro-vie ou les anti-choix, ceux qui vont voter non demain, vous expliqueront que même s'ils ont voté pour le mariage pour tous, l'avortement touche au droit à la vie, au droit humain, ce qui est fondamentalement différent. Et là, c'est plus l'Église catholique qui décide, ce sont les Irlandais, éduqués dans des principes moraux pendant des générations et qui considèrent que l'Irlande doit continuer à s'ériger en modèle de moralité et pas tomber dans les travers libertaires des autres nations européennes.
Est-ce qu'il y a un enjeu rural et urbain, les ruraux contre les urbains ou
pas ? Cet enjeu, il a toujours existé en Irlande. En fait, tout va dépendre de la manière dont la campagne a été organisée. Si le camp du oui s'est déplacé en zone rurale pour essayer d'expliquer les enjeux, alors les lignes vont bouger. Mais si les zones rurales ont été abandonnées au camp du non, ben je pense qu'il y a véritablement un risque.
Il y a d'ailleurs des sondages qui, pour l'instant, qui étaient très favorables à la fin de ça, à l'abrogation de cet article 8, c'est en train un petit peu de bouger. Avant d'aller retrouver notre autre invité, Alba Smith, je voudrais qu'on aille faire un tour en Irlande, justement, avec Gaëlle Joly. Parmi les noms, ceux qui veulent conserver le 8e amendement, voici comment ça se passe. Quand ils font campagne, elles font campagne, ce sont des femmes qui vont se frotter aux jeunes, d'ailleurs, également. Écoutez ça.
À l'entrée de l'université, Marie et Eugénie ont du mal à convaincre. Elles font même fuir les étudiants avec leurs photos de fœtus à la main, mais pas de quoi décourager les deux grands-mères.
On est venu là exprès pour ces jeunes, parce qu'on a le sentiment que cette population a subi un lavage de cerveau. Ils ont l'esprit très étriqué. On ne veut pas que des bébés soient tués dans notre pays.
Soudain, une jeune fille s'approche pour les prendre à partie.
Vous vous rendez compte, si je suis violée, que je veux avorter, je risque de passer plus de temps en prison que ce gars-là qui m'a violée parce que j'ai avorté. 14 ans de prison. C'est ça la loi aujourd'hui.
En face, les militantes anti-avortement haussent les épaules.
C'est très difficile de les convaincre parce qu'ils ont été conditionnés. Ce genre de personne ne reconnaît pas le bébé comme ayant une quelconque humanité.
Des militantes persuadées qu'avec l'aide de Dieu, le non va l'emporter.
God is on our side.
À quelques mètres de là, les partisans du oui observent un léger sourire aux lèvres.
I think we're all kind of waiting for this to be over.
Pour eux, demain, aucun doute, la nouvelle génération va donner un bon coup de balai sur ces institutions.
Bonsoir Alba Smith. Bonsoir Alba, vous m'entendez ? Alba, on a perdu Alba, c'est pas grave, on essaiera de la retrouver dans un instant. Nathalie Seban, en écoutant ce qu'on vient d'entendre là du reportage de Gaëlle Joly, il y a un enjeu générationnel réellement ou pas ?
Alors oui, j'ai envie de dire oui et non. j'ai entendu et vu des hommes et des femmes de tous âges déclarer haut et fort qu'ils voteraient oui, parce qu'ils ont vu autour d'eux des situations très douloureuses liées au 8e amendement. Et les jeunes sont très mobilisés, mais des deux côtés, et notamment grâce aux réseaux sociaux.
Et oui, et dans les deux sens que chacun s'est utilisé d'ailleurs des deux côtés. Bonsoir Alba Smith.
Bonsoir,
on vous a retrouvé, c'est formidable. Surtout ne changez rien, surtout ne bougez pas. On a l'impression que ça a été, Alba Smith, vous qui avez été l'une des figures de proue de la campagne pour l'abrogation de ce 8e amendement, ça a été une campagne difficile, vraisemblablement, avec un oui et un non qui sont finalement toujours au coude à coude. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous l'avez vécu ? C'est compliqué, y compris en 2018, de faire cette campagne-là dans votre pays, l'Irlande.
Mais écoutez, ça a toujours été très très difficile et je dirais que cette fois, parce que en fait c'est le sixième référendum que nous faisons sur l'avortement, en fait sur quatre moments différents, et je peux vous dire que bien que ce soit difficile cette fois, si on a un débat qui est vraiment, si je puis dire, robuste, en même temps c'est beaucoup moins violent, c'est beaucoup moins brutal de la part de l'autre côté, des opposants. Et je pense qu'effectivement, ça réfléchit très bien. C'est une réflexion d'un changement très important en Irlande où, tout de même, nous avons deux jeunes générations, je dirais, parce que depuis 83, ça fait trois générations presque. Et je crois que nous avons des générations qui sont beaucoup plus ouvertes, plus honnêtes, plus franches dans leur approche à la sexualité et surtout aux relations de genre, aux femmes. Et alors finalement, l'avortement, c'est toujours une question de pouvoir et des femmes.
Ce qui est intéressant, Alba, pardonnez-moi, dans la manière dont la campagne a fonctionné, y compris la vôtre, on a l'impression que la stratégie C'était finalement moins de mettre en avant le droit des femmes, les grossesses non désirées, etc., mais plutôt aussi de rassurer, de parler beaucoup de malformations du fœtus, enfin, d'avoir un discours qui était moins finalement un grand discours féministe que vous auriez pu le faire. Est-ce que c'était sciemment parce que le discours féministe, il a plus de mal à passer qu'un autre discours autour de l'avortement ?
Voilà, mais alors je crois que c'est exact, et ce que nous avons essayé de faire de stratégiquement, si vous voulez, c'était justement de parler directement à l'électorat dans toute sa diversité. Mmh. Et nous reconnaissons tout de même que l'électorat irlandais, de toute façon, n'est pas tout à fait féministe, donc il fallait évidemment essayer d'atteindre et de toucher tous ceux et celles qui pourraient voter pour l'avortement, peut-être pour des raisons, si vous voulez, pour des raisons dans des cas qui sont vraiment difficiles et qui ont été très manifestement, de façon très très claire en Irlande, qui ont été, parce que nous avons eu des cas qui ont été vraiment tragiques et difficiles.
Tragiques et très médiatisés aussi, ce qui a dû aider effectivement à votre mobilisation. Hein. On se souvient, parce que c'est venu jusqu'à chez nous, d'un certain nombre de cas de viol ou même de malformations terribles du fœtus.
Ou la mort de Savita en 2012.
Ou la mort d'une femme, on s'en souvient aussi en 2012, effectivement, un avortement qui n'a pas pu avoir lieu.
Justement, la mort d'une femme, Savita Halappanava, en 2012. Qui a vraiment initié, si vous voulez, qui était vraiment le catalyste pour le renouveau du mouvement pour l'avortement. Je dois dire que ce mouvement est bien sûr les leaders, enfin on est toutes féministes presque, mais en même temps on était très consciente du fait qu'il fallait avoir un discours qui était plus large et qui allait vraiment toucher, comme je disais, qui allait vraiment toucher le plus grand nombre de gens. Et je crois que dans ce sens-là, on a jusqu'ici, si je puis le dire, parce qu'on n'a pas encore le résultat, je crois qu'on a réussi tout de même à vraiment étendre notre touche pour les gens. Excusez-moi.
Non, je vous en prie, non, mais on a très bien compris. Ce que ça veut dire, Alba Smith aussi, c'est que si vous gagnez, il faudra quand même faire effort de pédagogie énormément pour que tout ça soit mis en place dans les meilleures conditions, éviter de vous retrouver avec un pays qui serait quasiment coupé en deux, en fait.
Oui, alors si nous gagnons, et c'est pas encore clair, mais si nous gagnons demain après-demain, nous le saurons, si nous gagnons, il y a effectivement un travail sans doute difficile. Également, il y aura beaucoup de défis là-dedans parce que nos parlementaires ne sont pas tous d'accord sur le type de législation qui a été proposé déjà par le gouvernement courant, mais nous ne savons pas si ce gouvernement pourrait être remplacé là par une élection générale à l'automne. Donc nous ne savons vraiment pas si cette législation va tenir ou non. Et dans un sens, la législation qui est proposée, la loi qui est proposée, est même plus libérale que nous avons espéré au début. Parce qu'en fait, il y a une période de 12 semaines, les 12 premières semaines de grossesse, qui sont très simplement sur la demande de la femme.
Une dernière chose, Alba Smith, à l'inverse, si vous échouez, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus remettre ce sujet sur le tapis avant les 30 prochaines années ? Est-ce que ce sera encore plus compliqué ? Ou est-ce qu'on peut profiter de ce débat qui est lancé pour y revenir très vite ?
Oui. Bon, écoutez, je crois que quelque chose a changé de façon très profonde en Irlande depuis 2 ou 3 mois, c'est que les femmes partout dans le pays parlent de leurs expériences de l'IVG et en parlent ouvertement et sans honte et sans ce sens de stigme qui était vraiment très très fort avant. Donc, et ça, c'est vraiment tout le monde maintenant peut prononcer le mot avortement. Sans broncher. Et ça, c'est vraiment un changement extraordinaire.
Merci.
Et c'est une espèce de franchise qui va jouer, je pense, un rôle important.
Merci mille fois, Alba Smith. Je vous laisse finir cette campagne, qui est une campagne importante pour vous. Nathalie Seban, est-ce qu'il y a un risque politique, quand même ? Le Premier ministre, il a mouillé sa chemise un peu dans cette histoire-là. Donc, est-ce qu'il y a un risque politique ? Et comme le disait Alba à l'instant, donc risque peut-être même d'élections à venir en cas de problème. Est-ce qu'on en est là ou pas ?
Il est sûr que la victoire du oui serait une victoire pour le gouvernement Varadkar, qui a le courage de s'engager, notamment par le biais de son jeune ministre de la Santé, Simon Harris, alors que les précédents gouvernements ont mis la tête dans le sable. Lui-même a pris position, à la fois en tant que Premier ministre et en tant que médecin. Alors c'est sûr que si le peuple dit non, il sera désavoué sur cette question. Et il a dit qu'il n'y aurait pas d'autre référendum, en tout cas tant qu'il serait...
Alors lui, c'est ce qu'il dit, effectivement. Ce qui veut dire que ce sera de toute façon sûrement compliqué en Suisse ensemble. Et merci mille fois, Nathalie Seban. C'est demain, donc, ce référendum irlandais conçu avec beaucoup d'attention.
France Inter. Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde en Colombie. Il y a deux jours, des élections dans une région mangée par les mines laissées par les FARC. Sous les radars et Florence Paracolos, avec Trump notamment, qui n'a pas le droit de bloquer, figurez-vous, des tweetos. Et on vous expliquera pourquoi. La carte blanche des correspondants de France Inter avec des crucifix obligatoires en Bavière et une cool attitude obligatoire à Pittsburgh aux États-Unis. Votre édito, Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Entre la Chine et la Corée du Nord, tout va mal.
Chine, Corée du Nord, États-Unis.
Et
voilà, j'appelle ça le trio infernal ou peut-être le ménage à trois, on va voir.
Allez, à tout de suite. Le tour du monde continue. Herman Zermitz et son verre de lait vide. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned a scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day. Company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, my love has gone away. Eh ben s'il n'y a pas de lait, faudra aller en chercher. Allez, Florence Paracolos, c'est là, sous les radars.
Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence, 27 morts d'Ebola en République démocratique du Congo. Une campagne de vaccination a donc commencé, mais la médecine n'est pas toujours le premier recours des malades, hélas.
Et c'est tout le problème, comment enrayer une épidémie quand une bonne partie de la population la met sur le dos d'un mauvais sort. Cette femme, rencontrée par l'AFP dans les rues de Mbandaka, première grande ville touchée, n'est pas certaine de la provenance du mal.
Nous avons des coutumes différentes. Et maintenant, on ne sait pas si réellement ce sont des sorts qui viennent de village. Mais le médecin vit que c'est Ebola. Mais là, on ne sait pas si c'était les sorts ou des coutumes ou quoi.
Et oui, en fait, beaucoup de gens sont persuadés que s'il y a des malades, c'est qu'un sort a été jeté dans le village d'où l'épidémie est partie. Un chasseur se serait fait voler un gros gibier et tous ceux qui auraient mangé la viande, qui auraient entendu parler du vol ou même qui auraient vu l'animal, seraient atteints par le maléfice. Du coup, ceux qui y croient pensent que la médecine ne peut rien faire pour eux. En début de semaine, par exemple, 3 patients contaminés ont quitté l'hôpital de Mbandaka avec leur famille, malgré les efforts des soignantes pour les retenir. 2 d'entre eux sont déjà morts. Il faut faire de la pédagogie, explique ce médecin interrogé par Patient Ligodi de RFI.
C'est très important que les familles des malades y comprennent les risques à garder les gens chez eux. C'est très important pour nous que c'est tout bien expliqué. Pour ça, si tout est compris par les familles, il y a moins risque que les gens veulent évader.
Voilà, expliquer pour que les gens se fassent soigner, pour que leur entourage qui n'est pas malade se fasse vacciner pour faciliter ce travail-là. Le Centre africain de contrôle des maladies vient d'annoncer l'envoi d'anthropologues en RDC dans l'espoir de faire passer le message avec les mots, avec les références qui feront mouche au pays des féticheurs et des prêtres évangélistes.
Florence, Donald Trump a-t-il le droit de bloquer ses détracteurs sur Twitter? La justice américaine s'est sérieusement penchée sur la question.
Et c'est non, Fabienne, l'homme qui tweete comme il respire n'a pas le droit d'empêcher ses opposants de le suivre sur le réseau. Le juge qui a tranché l'affaire estime que c'est en contradiction avec le premier amendement qui protège la liberté d'expression. 7 personnes avaient porté plainte, empêché de lire les tweets de Trump et d'y répondre. Ils sont sans doute extrêmement nombreux comme eux à avoir été chassés du fil présidentiel. Stephen King, par exemple, le maître du frisson littéraire reçu hier dans un show télé du soir aux États-Unis. La dernière fois que je suis venu, j'avais un président qui m'avait remis la médaille nationale des arts. Maintenant, j'ai un président qui me bloque sur Twitter. Qu'avez-vous fait à cet homme si sympathique pour le blesser autant? J'ai sans doute dit qu'il avait sa tête quelque part où seule une position de yoga permet d'arriver.
Si on est très souple.
Là, elle est en plein dedans d'ailleurs. Voilà, Donald Trump, la tête dans son séant. On comprend que le président n'est pas tellement apprécié, même si lui n'est pas en reste. Question attaque personnelle. Alors devra-t-il réautoriser ses détracteurs à le suivre sur Twitter? Pas vraiment. Là, la juge a laissé la possibilité à son appréciation. Mais les 7 plaignants ont bien l'intention de continuer à se battre s'ils restent exclus de ce canal indispensable à qui veut avoir accès à la substantifique moelle de la pensée trumpienne. Et puis à toutes ces décisions aussi, puisqu'elles sont toutes annoncées sur son compte, suivi par 52 millions de personnes. Voilà.
Et oui, dont moi, remarqué.
J'en étais sûre, Fabienne.
Bah oui, et je ne l'ai pas bloqué.
Tout à fait.
Et lui non plus, d'ailleurs.
Et donc,
ne m'a pas bloqué.
À part la décision du jour où là, il a écrit à Kim Jong-un, dont on peut supposer qu'il n'est pas sur Twitter.
Non.
Il a écrit une vraie lettre.
Oui, c'est vrai.
Manuscrite. Il l'annonce sur Twitter.
Exactement. Oui. Allez, Florence, merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est donc en Colombie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. La Colombie qui vote ce dimanche, vous le savez, une Colombie neuve qui vote. Nous sommes 2 ans après les accords de paix avec les FARC, mais la paix est bien fragile et le président sortant, Juan Manuel Santos, devrait être remplacé par le candidat de droite qui s'appelle Iván Duque. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Fabienne.
C'est dans la jungle que vous nous emmenez, on l'entend derrière vous. La paix, on disait, est bien fragile, les traces de guerre sont partout. Savez-vous par exemple que la Colombie c'est le pays le plus miné après l'Afghanistan? Et c'est ce que vous allez nous montrer, Thibault. Nous partons pour le Cauca, derrière vos pas, en faisant très attention, région du sud-ouest du pays, occupée pendant plus d'un demi-siècle par les FARC.
Près de 12 000 victimes de mines depuis près de 30 ans. Un quart d'enfants, comme Jemerson, l'adolescent à 13 ans. Il est fan de football. Avec sa crête sur la tête, il ressemble à ses idoles. Il y a 3 ans, Jemerson perd sa main gauche, lui dit ne se souvenir de rien. Alors c'est sa maman, Viviana, qui raconte.
Entonces, Mayos. En hora de la tarde, el niño subió de la casa de la abuela.
C'était un 12 mai. Mon garçon est parti dans l'après-midi voir sa grand-mère. Quand on a entendu l'explosion, parce qu'on l'a bien entendu, ma sœur m'a emmené le chercher à moto. Et quand je suis arrivée, mon garçon était à terre. Il était en sang. Sa main était déchiquetée. Je criais, j'appelais à l'aide, je criais comme une folle. Je le prenais dans mes bras parce qu'il était conscient. Il m'implorait de lui pardonner d'être parti sans demander la permission. Il me disait de ne pas le laisser mourir. Jemerson a été blessé à l'aorte. Il a perdu sa main. Un poumon a été touché et il a toujours des éclats dans le torse. Il a encore très mal à la poitrine. Il dit parfois qu'il sent sa main et ses doigts comme s'il l'avait encore. Et quand il essaie de prendre quelque chose, il se met en colère. Ça le fait rager.
Jemerson a sauté sur une mine antipersonnelle artisanale. Elle était dissimulée depuis quelques années au bord d'une route.
Tout le
monde est prêt? On y est?
Oui?
Allez, on y va.
Vamos.
Et c'est sur une autre route, ou plutôt sur un chemin en terre qui serpente entre des petits hameaux des Andes colombiennes, que les démineurs de l'ONG Handicap International s'apprêtent à intervenir.
Romero, est
talkie-walkie à la main, visière plastifiée et combinaison en Kevlar, ils ont repéré un engin explosif.
Je l'ai trouvé un peu plus bas dans le champ, alors je l'ai remonté pour qu'on puisse bien le voir.
Et c'est Edio Gonzalez, un travailleur agricole de la région, qui l'a trouvé puis déplacé. La mine est un obus rouillé d'une quarantaine de centimètres de long, de 10 centimètres de diamètre. À l'intérieur, une spirale en métal et à sa tête, une ogive remplie d'explosifs.
Il y avait des combats par ici. Ils lançaient des choses comme ça dans les champs. Je l'ai trouvé en travaillant et je l'ai ramassé parce que ça pouvait être dangereux pour le bétail. Je l'ai pris avec un bâton, il était tombé là, sur le ventre. C'est pour ça qu'il n'a pas explosé. Et ça peut être dangereux ? C'est quand même quelque chose de tendu, on ne sait jamais si ça explose.
Une explosion provoquée et maîtrisée. La technique consiste à envoyer de l'eau à très grande vitesse dans l'obus pour séparer la charge explosive du mécanisme d'initiation. Au bout d'un câble électrique d'une centaine de mètres, Ignacio Gonzalez vient d'activer le détonateur. Cet ancien des forces antiterroristes espagnoles est aujourd'hui responsable des opérations de déminage d'handicap international dans la région du Cauca.
L'engin explosif que nous avons détruit aujourd'hui est une copie d'un mortier conventionnel, une très bonne réplique. En Colombie, tous les engins explosifs et toutes les mines que nous avons trouvées sont fabriquées artisanalement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas produits à la chaîne, mais par un artisan d'un groupe armé qui a une certaine expérience. Ils sont très avancés et très bien faits. Ils sont réalisés à partir de matériaux communs, comme des bouteilles d'eau par exemple. Ces bouteilles sont enterrées dans le sol comme une mine, elles sont reliées à une seringue qui enclenche le mécanisme en cas de choc. Lorsque les engins explosifs sont fabriqués par une entreprise, ils suivent un modèle et nous connaissons tous les modèles. Dans les cas des mines artisanales, le modèle est ressemblant, mais les matériaux et l'emplacement des composants sont différents.
Le design, les matériaux et les ubications sont complètement différentes.
L'année dernière, plus de 5000 mines ont été neutralisées en Colombie. Une quarantaine de personnes ont été touchées. Toujours sur la même route, dans le village de la Capilla, l'information passe par 4 haut-parleurs. Ils sont installés au sommet d'un poteau à une quinzaine de mètres du sol.
N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous organisons une réunion avec Handicap International. Je vous demande de venir à l'école.
Et dans l'unique salle de classe de l'école, une cinquantaine de personnes assistent à un atelier très vivant, très pratique. Elles apprennent à reconnaître les différents types de mines ou à adopter les bons réflexes en cas d'accident. Des actions de sensibilisation indispensables, mais pas toujours suffisantes pour convaincre les habitants de coopérer avec les démineurs. Daimer Heuse est responsable de la logistique.
Un cas particulier est le thème de l'extraction minière.
Il y a ici une situation particulière avec l'extraction minière. Beaucoup de territoires sont des concessions minières exploitées par des entreprises multinationales. La conséquence, c'est que quand nous nous rendons à ces endroits et qu'on parle de déminage, les gens ont tendance à confondre le déminage humanitaire et l'exploitation minière. Dans le Cauca, on a beaucoup de problèmes pour entrer sur certains territoires. Les jeunes refusent de nous ouvrir leurs portes. Ils disent qu'ils ne veulent pas nous voir. Ils pensent que nous sommes là pour sonder le sol ou trouver de l'or. Ils croient que nous travaillons pour les Américains. Nous avons beaucoup de problèmes pour toucher certaines communautés.
Des difficultés qui ralentissent le rythme de la mission d'Handicap International en Colombie. Le gouvernement prévoit de déminer complètement son territoire d'ici 3 ans. Un objectif impossible à tenir, selon les responsables de l'ONG.
Thibault Lefebvre en Colombie pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup, à très vite. Les élections, c'est dimanche et forcément on y reviendra. Courtney Barnett est sur France Inter. Needs a little time. You seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. France Inter need a little time. Les correspondants de France Inter et leur carte blanche.
BBC News, Al Jazeera, CBS Morning News.
France Inter, Public Broadcasting, le 18-20.
Equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
Voilà ce qui a été lu, vu à la télé, dans la presse et partout dans les pays du monde et que vous avez sûrement raté. Bonsoir Berlin et bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Cyril, c'est une histoire de crucifix absolument dingue qui nous occupe, une histoire incroyable. Ça se passe en Bavière où les autorités régionales, ça va tous nous scier quand même ici, ont décidé d'imposer le crucifix obligatoire dans toutes les administrations.
Oui, à partir du 1er juin, toutes les mairies, organismes publics et administrations devront donc se mettre en conformité avec ce nouveau règlement adopté par le Parlement régional de Bavière. C'était il y a quelques semaines quand le leader de la CSU, le Parti conservateur bavarois, a fait cette annonce, Markus Söder, qui a tenu à montrer l'exemple devant les caméras au siège du Land de Bavière.
Cela me paraît tout à fait naturel de rajouter une croix dans l'entrée de nos bâtiments. Ce n'est pas uniquement un signe religieux, c'est aussi un symbole de notre histoire culturelle et de notre identité.
Identité, le mot est lâché. Cette décision ne doit rien au hasard. À 3 mois des prochaines élections régionales en Bavière, un scrutin où la toute puissante CSU semble menacée par la poussée des populistes d'extrême droite, d'où cette tentative de se replacer sur le terrain des valeurs en plein débat sur la place de l'islam en Allemagne. Le sujet est loin d'être anecdotique. En Bavière, où la religion chrétienne joue un rôle de premier plan dans l'espace public, il faut savoir par exemple que les crucifix sont déjà obligatoires dans toutes les écoles.
Alors pourtant quand même Cyril, cette décision fait scandale et la résistance s'organise à quelques jours de la date butoir.
Oui, dans les universités par exemple, à Regensburg, une pétition a déjà réuni des dizaines de milliers de signatures et dans plusieurs endroits de Bavière, des élus, des responsables d'organismes publics sont prêts à la désobéissance civile. La directrice du Neues Museum de Nuremberg annonce qu'elle n'accrochera pas de crucifix, pas question, dit-elle, dans un lieu dédié à la diversité et à la liberté artistique. Et comme le rapporte ce matin la Süddeutsche Zeitung, certains maires n'en veulent pas non plus. Celui de la commune de Roth en Franconie a pourtant un crucifix dans son bureau. Il se dit pratiquant, mais pour lui, toute cette affaire n'est qu'un coup marketing au service de la CSU. Plus étonnant, enfin, les responsables religieux, qu'ils soient protestants ou catholiques, ont exprimé leur désaccord jusqu'à l'archevêque de Munich, qui estime qu'une telle mesure risque de diviser davantage la société allemande. En revanche, comme le montrent plusieurs enquêtes d'opinion, une majorité de Bavarois soutient le projet. Raison suffisante pour que Markus Söder persiste et signe, malgré les critiques.
Eh ben, dites-moi, vous viendrez nous raconter, donc, après le 1er juin, Cyril Sauvageau à Berlin pour France Inter. Merci beaucoup. Bonsoir Grégory Philips et bonsoir Pittsburgh ce soir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous avez déserté Washington, donc Grégory, et votre président versatile qui annule ses rendez-vous. On va y venir dans quelques instants. Mais là, vous êtes donc à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour un reportage qu'on découvrira sur France Inter. Ce sera dans quelques jours. Pittsburgh, on sait que ce sont les hauts fourneaux, Grégory, la Rust Belt, comme on dit, la ceinture de la rouille, cité industrielle. Beaucoup de déclin évidemment là-dessous, mais Pittsburgh est en train de devenir la ville la plus cool des États-Unis. Racontez-nous ça.
Oui, parce que tout ce que vous venez de décrire est vrai. La sidérurgie, les usines, la pollution. Vous savez quel a été le surnom de Pittsburgh dans les années 70?
Allez-y.
On l'appelait City Steel, la ville de l'acier. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ajoutez à ça la crise industrielle des années 80. On avait une ville sinistrée avec un taux de chômage à plus de 15%. Sauf que effectivement, Pittsburgh a su se réinventer. Aujourd'hui, eh bien, elle arrive assez régulièrement en tête du classement des villes américaines où il fait bon vivre. Petite ville, 300 000 habitants, mais désormais réputée pour sa qualité de vie. Deux universités excellentes, un centre-ville au confluent de trois rivières, des collines boisées tout autour, et puis une reconversion réussie. Les activités de la ville sont désormais orientées vers la santé, vers la recherche, vers les nouvelles technologies. Google a un campus ici, et désormais, alors que les habitants désertaient la cité, eh bien des jeunes viennent s'y installer à nouveau. D'ailleurs, c'est pas un hasard si en 2009 Obama avait choisi Pittsburgh pour organiser la tenue d'un G20. C'était à l'époque pour montrer le dynamisme et la reconversion réussie de cette ville.
Alors donc, vous nous décrivez une réussite sur le plan économique, Grégory, sur le plan culturel, j'imagine que ça va ensemble. Il y a des choses à faire, il y a des choses à voir à Pittsburgh ou pas?
Ouais, franchement, venez passer quelques jours ici. Il faut aller voir le formidable musée Andy Warhol. Le peintre est né à Pittsburgh. Il y a d'ailleurs plein de jeunes artistes qui s'installent ici, notamment dans une ancienne usine de matelas reconvertie. Il y a désormais pas mal de petits quartiers branchés. Lawrenceville, par exemple, attire les jeunes adultes avec une vie nocturne qui n'a presque rien à envier à celle de Manhattan. À voir aussi, ça c'est un peu en dehors de la ville, les incroyables maisons imaginées et construites par l'architecte Frank Lloyd Wright. Vous savez, celui du musée Guggenheim à New York. Si vous aimez le foot américain, très bonne équipe des Steelers qui a déjà 6 Super Bowls à son actif. La dernière fois, c'était en 2008. À Pittsburgh, vous pouvez marcher sur les pas de Jen Kelly, qui est né ici, de Joseph Heinz, l'inventeur du ketchup. Enfin, j'ajoute que la ville, autrefois très polluée, est en pointe aujourd'hui en matière de défense de l'environnement. C'est de ça dont je vous parlerai dans quelques jours sur France Inter. Il n'en faut pas beaucoup plus, Fabienne, pour que je vous demande qu'on déménage le bureau de Radio France de Washington et qu'on l'installe ici.
Mais écoutez, je vous en prie, si vous me demandez à moi, il n'y a pas de problème. Ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas de réserver ma chambre, choisir la couleur, tout ça. Enfin, on fait comme d'habitude. Grégory, merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
L'édito d'Anthony Bélanger dans Un jour dans le monde. Anthony, que se passe-t-il en Asie en ce moment, au moment même où on se parle, entre les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord?
Alors, on va essayer d'être didactique pour bien séparer ce qui relève de la vague et de l'écume. Mais vous avez raison de lier les trois, la Chine, les États-Unis et la Corée du Nord forment un trio infernal qui, en ce moment, ne s'analyse pas l'un ou les uns sans les autres. D'abord, la Corée du Nord. On voit aujourd'hui, avec l'annulation par Donald Trump de son sommet du 12 juin prochain avec Kim Jong-un, que l'habileté diplomatique nord-coréenne a ses limites. Parce que voulaient obtenir les Nord-Coréens, au fond? Eh bien, ils voulaient négocier avec chacune des puissances concernées. Chine, États-Unis, Corée du Sud, et ce, séparément. En fait, depuis le grand-père de Kim Jong-un, les Nord-Coréens ont toujours joué les uns contre les autres. À l'époque, c'était les Russes contre les Chinois. Ça marchait à l'époque, et ça a bien failli marcher une fois de plus. Kim Jong-un, s'est rendu, par exemple, deux fois à Pékin pour des discussions exclusives. Et en menaçant la semaine dernière d'annuler lui-même le sommet, eh bien Pyongyang avait réussi à semer la zizanie entre le seul front uni d'aujourd'hui, celui qui était formé ou qui est formé par Séoul et Washington.
Donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, Anthony, c'est qu'ils ont joué et ils ont perdu.
Alors, c'est une des hypothèses qui se nourrit de la réalité. Parce que la réalité, c'est que les Nord-Coréens ne sont pas grand-chose dans les équilibres régionaux d'aujourd'hui. Par exemple, la Corée du Sud est tellement plus riche qu'eux, et surtout les connaît si bien, qu'elle est de plus en plus réticente à signer, vous savez, les habituels énormes chèques en blanc que demande Pyongyang. Mais surtout, le monde a changé depuis le grand-père de Kim Jong-un. La Chine est redevenue une puissance économique de premier plan et son armée n'est plus un tigre de papier. Elle ne voit plus du tout la présence militaire américaine de la même façon qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Les États-Unis sont en Corée du Nord et au Japon. Bah parfait, l'armée rouge prend position en mer de Chine du Sud et bientôt dans le Pacifique. La Chine joue au jeu de Go, c'est-à-dire à l'encerclement de l'adversaire. Or, souvenez-vous, le Go est un jeu à deux adversaires et pas à trois.
Bah alors ça, je vous fais confiance.
Excite l'ombrageux Corée du Nord et son chantage à la petite semaine. De plus, la Chine vient de signer avec les États-Unis une sorte de paix commerciale armée. C'est la seule chose qui compte vraiment aux yeux des Chinois, dont l'économie ralentit, et ce depuis plusieurs années.
Mais Donald Trump, il le voulait, son sommet de Singapour, quand même?
Oui, il le voulait, mais presque trop. Il s'est fait piéger par son propre enthousiasme. Lui, qui prétend être un négociateur hors pair, a commis une faute de débutant. Je vous donne un exemple.
Allez-y.
Lorsque vous achetez une maison ou un appartement, il y a quelques règles de négo de base. D'abord, vous ne dites pas en entrant la maison, ah mais c'est exactement ce que je veux, c'est la maison qu'il me faut. Vous financez, vous faites la fine bouche. Et puis deuxièmement, vous n'annoncez pas l'argent dont vous disposez, sinon le vendeur a toutes les cartes en main. Eh bien, en disant qu'il voulait rencontrer au plus vite Kim Jong-un, et en expliquant qu'il voulait signer un accord de paix, il a abattu d'un coup toutes ses cartes. Devant la mauvaise foi des Nord-Coréens, c'était la semaine dernière. Il n'en restait donc plus qu'une seule chose à faire, annuler ou être ridicule.
Donc on peut aussi imaginer une sorte d'entente entre Corée du Nord et Chine, ou pas?
Ça, c'est la deuxième hypothèse.
Dans le dos de Trump, alors?
Voilà, dans le dos de Trump. La Chine n'a rien à gagner, en fait, à une paix immédiate dans la péninsule nord-coréenne. Et en plus, elle n'a aucune confiance en Donald Trump, et croyez-moi, les faits lui donnent raison, qui dit tout et son contraire. Pour elle, le statu quo est encore la situation la meilleure. Et c'est peut-être ce que Pékin a pris le temps, vous savez, d'expliquer en par deux fois au régime de Pyongyang. Sans nous, vous n'êtes rien. Et les Américains sont si peu et ne nous font plus peur. De plus, les Sud-Coréens et les Japonais, vous savez, sont moins amènes que prévu, donc brisons-la. D'un côté, vous avez donc plein d'hypothèses diplomatiques chinoises, tous plus subtiles les unes que les autres, je viens de vous en expliquer deux. De l'autre, vous avez Washington, qui est gros Jean comme devant. Ça suffit, ça, au bonheur de la Chine, qui veut faire depuis toujours la démonstration dans la région de la pusillanimité et de l'inutilité américaine.
Et en même temps, Anthony, on a vu quand même beaucoup d'allers-retours ces derniers temps, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de paroles. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, après-demain, on se rende compte que finalement, Singapour, ça existe ou pas?
Bien
ou
est-ce sûr, que c'est mort, bien sûr, c'est ça qui est assez fascinant avec ce jeu à trois, c'est qu'on peut, on a pour l'instant un sommet annulé qui pourrait être reprogrammé dès la semaine prochaine. C'est palpitant tout ça, mais c'est tout de même un peu foutraque, pour tout vous dire.
Bah écoutez, c'est ce qu'on retiendra et on en reparle évidemment de ce sommet foutraque, comme vous dites. Ce sera dans le journal de Sébastien Paour et c'est dans un instant sur France Inter.
Les éditions Radio France présentent Un été avec Homère, un livre de Sylvain Tesson. Une aventure héroïque et magique à travers la mythologie grecque et deux chefs-d'œuvre de l'humanité, l'Iliade et l'Odyssée.
Homère est notre très vieux compagnon d'aujourd'hui. Demandons-lui ce qu'il a encore à nous dire.
Un été avec Homère de Sylvain Tesson, une coédition France Inter.
Et donc dans un instant, ce sera évidemment le journal de Sébastien Paour sur France Inter. Et puis le téléphone sonne à suivre, un téléphone sonne... On va l'appeler bonne fête pour les non-mères. Tiens, on parle de non-désir d'enfant ce soir, pas envie. Un choix assumé par beaucoup de femmes, mais que la société a toujours du mal à accepter, sans parfois lever un sourcil. Ah, tu verras, tu changeras d'avis. Eh ben non. Et pourtant, parfois, dire qu'on ne veut pas d'enfant, c'est un peu, Sébastien, ça va vous parler, ça, comme crier vive l'OM ou Paris Saint-Germain. Ça crée en général un froid autour de vous, dans l'entourage et ailleurs. Eh bien, venez nous raconter tout ça dans le téléphone sonne. Venez nous raconter votre expérience, les réactions autour de vous, le choix, le non-choix en solo ou en couple, ça se passe au 01 45 24 7000.